Les orages maléfiques, chapitre 44. Il n'avait plus touché une goutte d'alcool depuis des mois. Il résistait à toutes les pressions. Chaque semaine, il rencontrait un psychanalyste, souffrant de lui confier ses blessures. Mais cela l'aidait à avancer vers le chemin de la guérison. Le remords le tenaillait souvent. Il ne fuyait plus les problèmes. Il les affrontait lucidement, en sachant qu'il ne pourrait rien changer au passé. Il saurait le gérer désormais. Au début, il fut victime d'une peur panique en réalisant qu'il se sentait mieux depuis la disparition de tous les membres de sa famille. Il s'attribuait une responsabilité dans ses tragédies. Dans ses cauchemars, son père et sa mère l'accusaient d'être un mauvais fils. Il projetait des images négatives, baignait dans du sang et se réveillait épuisé, hagard, face à ses chimères. Il accepta peu à peu la triste réalité et réussit à faire la part des choses dans le déroulement des événements ayant conduit au décès de sa mère. La nuit, il parlait à son père, lui disait sa peine. Cela lui faisait du bien, même s'il n'obtenait aucune réponse. Il rencontra également le fantôme de son frère qui lui souriait. Ses petites nièces aussi. Au fil des jours, ses visions s'espacèrent. Il assumait tout et s'en trouvait soulagé. Il y avait plus d'un an que le tsunami s'était emparé de son père. Rien ne changerait plus à présent. Dans les reportages qu'il regardait, il voyait la reconstruction des infrastructures hôtelières qui avançaient à bon train. Le touriste devrait revenir au plus vite. La recherche des cadavres était abandonnée. Chacun accomplissait son travail de deuil, avec ou sans défunt. La priorité étant au vivant. Lui n'avait envie que d'une chose, retrouver Rindra. Elle lui manquait terriblement. Il lui avait écrit, mais rien n'obtenu en retour. Que devenait-elle dans ce pays du tiers-monde? Il souhaitait se rendre là-bas, la voir, la sentir, la toucher, mais redoutait sa réaction. Il partirait vers l'inconnu, prêt à affronter ses reproches. Elle lui expliquait qu'il allait beaucoup mieux et qu'il avait besoin d'elle pour accomplir le reste de la route. Il reçut une lettre de l'office notarial familial qui le sollicitait pour une prise de rendez-vous. Une semaine plus tard, il écoutait lire le testament rédigé par son père. Il fut surpris à la lecture du document. Il s'attendait à tout, sauf à entendre le brave homme lui signifier qu'il avait une sœur qui se prénommait Bo. Elle vivait avec sa mère à Hanoï au Vietnam. L'étonnement l'empêcha de réagir pendant quelques secondes. Le notaire reprit son souffle et continua de débiter la suite. Bo aurait 11 ans dans l'année. Elle héritait de la moitié des biens de son père et d'une confortable assurance-vie. Quant à lui, il bénéficiait de l'autre moitié, soit environ 250 000 €. En d'autres temps, il aurait très mal pris ces nouvelles. Aujourd'hui, la curiosité l'emportait sur les autres considérations. Depuis quand son père entretenait cette relation? S'agissait-il d'une sœur de sang? Toutes ces interrogations se bousculaient dans sa tête. Il sollicita le notaire pour obtenir les coordonnées de la jeune fille et de l'ex-compagne de son paternel. L'homme hésita un instant. Il s'apprêtait à fermer la chemise renfermant le dossier quand il se ravisa. Il prit un Bristol et griffonna 2 adresses, celle connue de Siong et celle du cabinet vietnamien. Il le remercia chaleureusement. Cela l'aiderait à avancer dans sa quête. Il souhaitait s'entretenir avec les deux femmes, espérant connaître davantage son père à travers les 2 dernières personnes à avoir partagé sa vie. Il échafauda les hypothèses les plus incongrues. Il se demandait si la famille n'avait pas été l'objet d'un jeu de dupes. Il ne pouvait se résoudre à considérer son père comme un Casanova, un Don Juan, un marin avec une maîtresse dans chaque port. Ce dernier aimait trop sa chère et douce épouse pour aller se fourvoyer dans une liaison adultère. Il possédait quelques clés avec le portefeuille, la carte postale de Borobudur et l'enveloppe vierge. L'érosion l'empêchait d'ouvrir les portes et de découvrir la vérité. Il surfa toute une soirée sur Internet afin de dénicher un billet d'avion à destination d'Hanoï. La guerre des prix faisant rage, il opta pour un vol hors week-end avec retour 8 jours plus tard, ce qui lui permit de décrocher un rabais conséquent. Il posa des congés à valoir sur un reliquat important de l'année précédente et prendrait le reste assez rapidement car il voulait aussi se rendre à Madagascar. Il se renseigna sur les formalités pour entrer dans le pays et fut heureux d'apprendre qu'il pourrait solliciter un visa de touriste à l'arrivée à l'aéroport d'Hanoï. Il restait 4 nuits avant le départ. Il eut du mal à trouver le sommeil, languissant de fouler le sol vietnamien. Il avait décidé de ne pas s'annoncer auprès de Sion et Bo. Il préférait jouer l'effet de surprise. Si les choses tournaient au vinaigre, il se rabattrait sur le notaire afin d'obtenir un rendez-vous avec la mère et sa fille. À défaut, il se contenterait des informations fournies par l'homme de loi. Il partait dans l'inconnu. Tout était envisageable.